solennel, Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées vendredi sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. L'occasion d'annoncer une hausse record du budget des armées, plus 30% sur 6 ans.
Ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires. Afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde.
Ces 413 milliards d'euros seront alloués à la dissuasion nucléaire, à la détection des risques, mais aussi au renseignement militaire, au système de défense sol-air et au renforcement des capacités en drones. Des choix dictés par la guerre en Ukraine, où les drones d'attaque de Kiev jouent un rôle majeur. D'où l'ambition affichée d'Emmanuel Macron de moderniser les armées.
Nous devons donc avoir une guerre d'avance. Que face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose et disposera d'armées prêtes au péril du siècle.
À l'heure actuelle, après avoir misé pendant plusieurs décennies sur la dissuasion nucléaire, la France aurait plutôt une guerre de retard, à en croire des parlementaires qui pointent les faiblesses tricolores. En cas de conflit intense, l'armée pourrait vite se retrouver à court de munitions.
Nous avons une armée échantillonnaire, c'est-à-dire que nous savons tout faire, mais avec peu de masse, et donc nous supporterions très mal dans la durée l'attrition d'un combat de haute intensité. Il faut renforcer les volumes de munitions, les volumes de missiles.
Alors la France pourrait-elle se défendre en cas d'attaque? Nos armées ont-elles encore les moyens de faire la guerre? Dans quel secteur l'État doit-il investir en priorité pour retrouver une armée compétitive?
Très impressionnant.
Oui, 80. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit majeur ou de haute intensité, hein, comme on dit, eh bien, l'armée française ne pourrait tenir que sur une ligne de front de 80 km. Pour se faire une idée, c'est la distance entre Dunkerque et Lille ou Strasbourg et Mulhouse. C'est une donnée fournie par le ministère des Armées à nos confrères du journal L'Opinion, qui sont toujours très bien informés, avec le déploiement d'un maximum de 25 000 hommes. Général.
On peut s'inquiéter. Quand on regarde la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, qui doit faire environ 1000 km,
exactement.
Vous avez raison. Maintenant, la France, comme le disait madame, n'agirait pas seule. On agirait dans le cadre d'une coalition. Et je ne vois pas aujourd'hui, en tous les cas, de conflit directement dans lequel la France serait la seule pays en Europe à se battre contre un envahisseur, par exemple.
Pourquoi est-on ?
Il peut y avoir l'intervention française au profit d'autres pays, mais je ne vois pas aujourd'hui la France attaquée par l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, par exemple, ou la Belgique. Donc je crois qu'effectivement, il faut voir l'armée française dans le cadre d'une coalition, même si l'armée française a besoin d'avoir l'ensemble des composantes, parce qu'effectivement, l'armée française aujourd'hui est déployée un peu partout dans le monde, d'abord sur nos territoires et départements d'outre-mer, et puis également en Afrique, dans un certain nombre de pays, il y a environ 30 000 hommes qui sont déployés en permanence par l'armée française, en fait.
Perdu, mais depuis la précédente loi de programmation militaire, dans laquelle il s'agissait de réparer, le premier mandat du président de la République a justement redonné des moyens. Augmenté la première loi de programmation militaire jusqu'en 2014 augmentait 30% de budget. Celle-ci l'augmente également de 30%. Donc on a réparé des lacunes qui existaient.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a une armée échantillonnaire?
Mais parce que.
Enfin, un armement échantillonnaire.
Le problème, c'est qu'on ne doit pas regarder une armée comme un Lego. Une armée, elle répond à ce que le politique considère comme la menace stratégique. Et donc, au fur et à mesure du développement...
Comme la menace stratégique au moment T, c'est-à-dire au moment où on parle.
Et au moment de la loi de programmation, c'est-à-dire à T plus 10, mettons. Et donc, il y a en 2008, par exemple, la précédente loi de programmation militaire, la menace, c'était le terrorisme et la nécessité, c'était les interventions extérieures. Donc, on a laissé tomber la défense des 80 km pour faire des OPEX. Ensuite, en 2014... Moi, j'étais membre de la commission du Livre blanc de 2013. On a confirmé ce choix parce qu'il était cohérent avec l'environnement extérieur. Aujourd'hui, on a une guerre en Ukraine. Alors, les militaires, pardonnez-moi général, mais surtout l'armée de terre, a une espèce de trauma ukrainien et disent maintenant on ne peut pas tenir sur 80 km. Mais ça n'a pas de sens de regarder uniquement cette question-là. La question, c'est quelle est la menace et avec qui on la fera. Si on pense qu'on a une menace tous azimuts et qu'on agira seul, alors à ce moment-là, il faut dépenser 10% du PIB pour la défense. Si on pense que la menace est globale mais qu'on ne sera jamais seul, on peut rester aux 2,5%.
Et effectivement constitue le socle depuis les années 60 à partir duquel se construit un appareil de force, un modèle de force, en sachant que effectivement les scénarios les plus exigeants qui menaceraient les intérêts vitaux français sont couverts par la dissuasion nucléaire. Mais uniquement ces scénarios sur les intérêts vitaux. Il y a tout un tas de scénarios d'engagement dans lesquels on aurait besoin d'engager nos forces et d'être crédibles, y compris dans des scénarios de haute intensité, dans lesquels la dissuasion nucléaire ne pourrait pas entrer en jeu. Et le cas de l'Ukraine, y compris d'autres cas sur le flanc est de l'Europe ou le flanc sud, impliquerait sans doute un emploi des forces. Mais pour revenir à la question des 80 km de l'armée échantillonnaire, il faut comprendre qu'on a un effet ciseau qui s'est mis en place, où à la fois, effectivement, il y a un objectif du politique qui a été fixé pour de la projection de force très loin, qui consommait beaucoup de ressources, qui faisait que, évidemment, si vous voulez faire la guerre à 5000 km, ça vous consomme des ressources que vous ne pouvez pas mettre pour faire une guerre continentale, comme les Polonais, par exemple, la préparent sur leur frontière. Et en même temps, vous avez un autre effet, qui est l'inflation des technologies militaires. L'inflation du coût des matériels. Et depuis 30 ans, on finance la modernisation de nos armées par la réduction de leur format. C'est-à-dire que comme vous avez, pour faire simple, un char qui coûte deux fois le prix du char de la génération précédente, à budget constant, vous allez avoir deux fois moins de chars. Et donc voilà comment, tout en mettant toujours autant d'argent, voire davantage plus, on se retrouve avec moins de capacité militaire sur le terrain.
Mais juste quand... 18 canons, les Ukrainiens en sont ravis, et tant mieux. Je crois que c'est un excellent canon. Mais de fait, en même temps, on empêche nos propres artilleurs de s'entraîner. On les empêche donc d'être aguerris avec un matériel dont ils auraient besoin en cas de guerre dans laquelle la France serait engagée.
Bon, alors commenter le petit reportage qu'on a vu. On était à l'époque dans l'ultralibéralisme économique, c'est-à-dire le marché est roi et on fait des économies parce qu'on a les dividendes de la paix. C'était ça à l'époque des années 70. Maintenant, on n'a pas de dividendes de la paix.
C'était 97,
hein. 97, pardon. On n'a pas de dividendes de la paix, on a au contraire des contraintes de la guerre. Donc on est dans un monde complètement différent. Deuxièmement, c'est un débat qu'on n'a pas en France, et cela je le regrette même sur la loi de programmation militaire que le président de la République vient de proposer. On a une France qui est protégée par la dissuasion nucléaire, comme l'a dit Elie Tenenbaum. Et on a une armée conventionnelle qui n'est pas séparée de la dissuasion. Elle est l'environnement stratégique qui crédibilise. Et notre doctrine a toujours été que notre dissuasion nucléaire à nous, à la différence de celle des Américains, elle est faite pour empêcher toute guerre. Elle n'est pas faite pour empêcher une guerre nucléaire. Elle est faite pour empêcher toute guerre. Donc l'idée qu'il faudrait mener une guerre de haute intensité pour défendre 80 km est une idée qui, à mon sens, est nouvelle par rapport à notre doctrine de dissuasion. Or, en France, le débat sur la dissuasion, sur la doctrine, est tabou. Il est interdit. Moi, quand j'étais membre du Livre blanc, le président Hollande nous avait dit « Vous ne touchez pas à la dissuasion nucléaire ». C'était Jean-Marie Guéhenno, à l'époque, qui présidait la commission. Or, je trouve que ce débat, maintenant, devient urgent, parce qu'on voit, effectivement, avec la guerre en Ukraine, qu'on peut avoir une séquence de guerre à haute intensité qui n'est pas couverte par la dissuasion. Et donc, la priorité, c'est peut-être pour ça que certains militaires disent « La priorité doit être les éléments qui nous permettent de faire des conflits de haute intensité. Bah »
Votre voisin,
mais si vous voulez, ça, tout ça s'insère dans des schémas de déploiement qui correspondent en fait à des hypothèses d'engagement dans le cadre de l'OTAN, où la France aurait vocation à commander un corps d'armée dans une grande coalition pour protéger, par exemple, un des États de l'OTAN, de l'Alliance, ou d'autres États qui seraient agressés, dans lesquels on choisirait d'intervenir sans que les intérêts vitaux de la France ne soient engagés. Donc la dissuasion nucléaire ne doit pas couvrir l'hypothèse de toute guerre, mais toute guerre menaçant les intérêts vitaux de la France. Encore une fois, les intérêts de la France, il y a des intérêts qui sont réels, mais qui ne sont pas des intérêts vitaux. Et justement, les forces conventionnelles sont là pour offrir une marge de manœuvre politique.
Eh ben, c'est donc bien qu'on doit mettre l'argent, c'est ça que vous nous dites? C'est quoi ces forces conventionnelles?
Aujourd'hui, ces forces conventionnelles sont effectivement réduites par tout un tas de demandes et par les effets d'éviction dont on a parlé, et demandent une recapitalisation. Simplement, la loi de programmation militaire qui va être proposée offre une forme de consolidation, mais sans doute pas l'épaisseur nécessaire pour regagner en influence en présence, y compris sur tous les scénarios. Donc il y a un certain nombre de choix qui sont faits. On pourra discuter des options qui sont privilégiées aujourd'hui par le président de la République. Ce n'est pas forcément les seules qui existent.
Vous voulez juste ajouter quelque chose avant qu'on parle de la cyberarmée?
Oui, c'est-à-dire que la loi de programmation militaire en fait, permettrait la modernisation.
ne permettent pas d'augmenter la masse. Or, effectivement, ce qui manque aujourd'hui dans l'armée conventionnelle par rapport à la dissuasion, c'est la masse. C'est-à-dire qu'on n'augmentera pas le nombre de chars, on aura toujours 200 chars Leclerc environ, on aura toujours une centaine de canons, on aura toujours 180 avions de chasse, donc on ne va pas augmenter la masse, malheureusement.
Dans un monde interconnecté, avec des armées qui sont particulièrement numérisées, l'armée terre est l'une des armées les plus numérisées d'Europe, et donc forcément il y a une vulnérabilité sur le cyber, et la France, je pense, a pris la mesure de cette vulnérabilité, des opportunités aussi en termes d'attaque, de lutte informatique offensive, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, le champ cyber est pris.
Donc on a assez d'hommes, ils sont suffisamment formés, on est...
C'est pas qu'une question de ressources, c'est une question de qualité. Le champ, le champ du cyber est un champ est particulièrement évolutif où le qualitatif prime sur le quantitatif. Dans les grandes puissances du cyber, vous avez des tout petits pays. Et vous avez des très grands pays. Les États-Unis comme Israël sont des grands pays.
Sourcils.
On n'a pas beaucoup d'ailleurs, nous, des drones, si j'ai bien compris.
D'abord, personne ne sait comment sera la guerre de demain. Hein. À chaque fois, on a une marge d'erreur quand on imagine le futur. Par exemple, personne n'avait prévu qu'en 2022, il y aurait une guerre en Ukraine qui soit à la fois une guerre type les guerres de 14, c'est-à-dire une vraie boucherie humaine, et en même temps une guerre du 22e siècle, une guerre à coups de cyber, d'informatique, etc. Donc, l'hybride, la mixité de ces opérations, c'est peut-être ça la guerre de demain, mais il ne faut pas que la haute technologie nous empêche de voir le côté humain de ces conflits. Alors, sur les drones, évidemment qu'il faut que la France investisse, d'ailleurs... Moi, d'abord sur les drones de renseignement, mais c'est le cas, je crois. Le budget va augmenter de 60%, je crois, le budget du renseignement.
Et on a la technologie ou pas, où on doit les acheter à l'étranger?
D'ailleurs, on les fait en commun.
On les fait encore.
On les fait en commun.
En commun avec qui?
Avec les Allemands, notamment.
Ah bien, justement.
Parce
qu'on attend nos voisins.
Question pour tous les trois.
D'abord, c'est une d'abord, les armées sont une prérogative nationale et chaque armée a avant tout des objectifs politiques qui sont différents. On voit bien, les armées françaises ont été déployées en Afrique, là où les armées allemandes, voilà, ont reçu un oukase du politique et leur disaient, là, on est hors de question. Et donc, quand vous faites un char pour déployer en Afrique, c'est pas le même char que vous faites pour déployer sur le territoire national. Et donc derrière, on a beaucoup de mal sur les spécifications, sur les exigences en termes de matériel, si les missions sont différentes. Donc déjà, il faut faire émerger ce que le président de la République appelait une culture stratégique commune, comme préalable d'une certaine manière à des vraies opérations d'armement en commun. Ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Ensuite, vous avez des acteurs industriels qui, en fait, sont concurrents sur le problème. Donc ça, c'est quand même la grande difficulté
Une armée, comme elle le dirait Lee Tannenbaum, est nationale. Donc elle dépend effectivement d'un gouvernement, d'un exécutif national.
C'est la défense européenne dont on parle depuis des années.
Il y a des armées en Europe, il n'y a pas d'armée européenne. Je veux dire, une minute sur les drones. Les drones, on n'en a pas en France.
On a très peu de temps, là.
Très peu.
Concluez sur la...
15 secondes. La défense européenne, nos partenaires la refusent comme une défense des territoires. Ils l'ont voulu comme une coopération extérieure pour la gestion des crises des autres. Donc on l'a fait. Maintenant, il faut sauter le pas d'une défense européenne pour nous défendre, nous. Et cela, on ne le fera pas contre les États-Unis. On le fera en bonne intelligence.
Eh ben voilà, c'est simple avec vous. Hein, avec...